Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Pour vous servir aujourd'hui, Grégory Pless, c'est moi qui vais vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au programme du jour, pour vous mettre en appétit en fin d'émission, Audrey Bourget va nous parler de cannelé, plus précisément de ceux concoctés par Vincent Uzo à Melbourne. Et puis le jeudi, vous le savez, on fait le point sur l'économie. Nicolas Perpich et Jean-Noël Ducasse vont bien sûr revenir sur la hausse des taux d'intérêt décidée mardi par la Banque Centrale Australienne. Enfin, bien sûr, on fera le point sur l'actualité sportive. On vous parlera aussi du Tour d'Italie, le Giro, qui démarre demain et que vous pourrez suivre sur SBS. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va! À la une de l'actualité de ce jeudi 5 mai 2022, en Australie, le pacte sécuritaire récemment signé entre les îles Salomon et la Chine s'invite dans la campagne électorale. Scott Morrison et Anthony Albanese ont chacun pris position sur cette question. En Ukraine, l'offensive russe se poursuit de Mariupol à Kharkiv, tandis que les Européens envisagent pour leur part d'adopter un nouveau train de sanctions. Sanctions qui pourraient viser entre autres le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe et soutien majeur de Vladimir Poutine. Enfin, en France, les Insoumis ont réussi leur pari de rassembler toute la gauche derrière leur bannière pour les élections législatives après la signature hier soir d'un accord avec le Parti socialiste. Les questions internationales font rarement l'objet de débats durant les campagnes électorales, mais ça n'est pas le cas cette année en Australie, où d'après une enquête publiée aujourd'hui par le Sydney Morning Herald, 72% des Australiens se disent inquiets, voire très inquiets, de la signature d'un pacte sécuritaire entre les îles Salomon et la Chine. Ce sondage paraît au lendemain de déclarations du Premier ministre salomonien, Manasé Sogavare, qui indiquait qu'il n'appréciait pas que les Australiens considèrent son pays comme leur précaré. Interrogé sur ce sujet ce matin, Scott Morrison a assuré que les relations entre les îles Salomon et l'Australie ne s'étaient pas détériorées. Il a même ajouté que l'Australie restait le partenaire sécuritaire privilégié des îles Salomon, et ce, alors que ce pays a donc signé un accord sécuritaire avec la Chine.
I am following very carefully the advice that I get from our security intelligence agencies in how we are responsibly managing the issues in relation to this matter. That is exactly what I'm doing. We have always been there for the people of the Solomon Islands, and we always will be. That doesn't mean that prime ministers will always agree. I have a different view to him about the role of Russia invading Ukraine. So there's a difference of view. I have had contact with him in the last few months.
De son côté, le chef de file des travaillistes Anthony Albanese s'est lui engagé à réparer cette relation diplomatique avec Honiara, mais il a aussi critiqué la façon dont le gouvernement actuel avait géré cette relation ces derniers mois.
The fact that the Prime Minister hasn't picked up the phone to Prime Minister Sogavare says an enormous amount. We've outlined a comprehensive Pacific plan. It's about increased aid. It's about dealing with climate change, including hosting a COP along with the Pacific Island nations. It's about people-to-people relations, including parliamentary visits. It's about making sure that we have a migration program.
Sur un tout autre sujet, la ville de Melbourne s'est réveillée ce matin avec un double meurtre. Deux hommes ont effectivement été tués après avoir été attaqués au couteau vers 5 heures du matin dans le quartier de Brunswick. Une femme a été arrêtée par la police quelques minutes plus tard alors qu'elle se trouvait à bord d'un tramway dans le quartier de Carlton. En Ukraine, les combats continuent de faire rage, en particulier dans la ville portuaire de Mariupol, où plus de 300 civils se sont réfugiés dans l'aciérie Azovstal. Le président Zelensky a indiqué être parvenu à un accord avec les Russes pour la mise en place d'un cessez-le-feu d'une durée de 3 jours. Il a par ailleurs appelé les Nations Unies à les aider à évacuer les dernières personnes présentes sur place.
The second phase of our evacuation operation in Mariupol ended today. 344 people were successfully evacuated from the city and the outskirts. That's how many people left today for Zaporizhzhia. Our team is preparing to meet them in the same way as over 150 people who were successfully transported from Azovstal. All of them will get the necessary assistance. All of them will be treated in the most supportive manner by our state.
Dans le même temps, le conflit se poursuit dans le reste du pays, notamment à Kharkiv, où les forces ukrainiennes sont parvenues ces derniers jours à faire reculer la ligne de front et même à libérer quelques villages alentours. Ceci étant dit, la vie sur place est loin d'être revenue à la normale. C'est ce qu'a expliqué Maria Avidiva. Elle est directrice de recherche à l'European Expert Association, à nos confrères de Radio France Internationale. Elle vit à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.
Donbass remains their main target.
Le Donbass reste leur principale cible. Les combats les plus intenses se déroulent là-bas en ce moment, vers Izium et près de plus petites villes. Mais les militaires ukrainiens continuent à défendre Kharkiv parce que ce n'est pas terminé ici. Après cette attaque sur le Donbass, il est possible que l'offensive bascule sur Kharkiv, car la ville est très proche de la frontière russe et parce que les Russes concentrent en ce moment des troupes à Belgorod, qui est la grande ville la plus proche côté russe. Et elle est à seulement 40 km de Kharkiv.
Only 40 kilometers from Kharkiv. So they will try to get as much.
Ils vont essayer de conquérir le plus de territoire possible pour montrer un semblant de victoire, de succès au peuple russe. Parce que jusqu'ici, les forces russes n'ont réussi à accomplir aucun des objectifs annoncés par Vladimir Poutine au mois de février.
Et les Européens envisagent, eux, d'adopter un nouveau train de sanctions, le 6e depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Parmi les mesures envisagées, un embargo progressif sur le pétrole russe, l'exclusion de 3 nouvelles banques russes du système interbancaire SWIFT, ainsi que des sanctions visant 58 personnalités, parmi lesquelles le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, un allié clé de Vladimir Poutine. Nicolas Feldman, pour RFI, nous dresse son portrait.
23 avril dernier, le patriarche Kirill célèbre la messe de la Pâque orthodoxe à Moscou. La télévision russe montre au premier rang Vladimir Poutine, un cierge à la main. Le patriarche Kirill et Vladimir Poutine, c'est l'histoire de deux destins liés au service d'une même ambition, faire de la Russie une puissance dominatrice et conservatrice, les sermons de l'un s'alignant sur les discours politiques de l'autre. Comme le président russe, le patriarche s'affiche en pourfendeur de l'homosexualité. Il justifie la répression d'opposants ou de médias indépendants, mais à 75 ans, c'est son soutien de ces dernières semaines à l'offensive russe en Ukraine qui dérange du côté de l'Union européenne. Le mois dernier, le patriarche appelait les Russes à faire corps, je cite, pour combattre ses ennemis extérieurs et intérieurs. Un peu plus tôt, il parlait d'un combat contre les forces du mal, opposé selon lui à l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. Si le patriarche Kirill venait à entrer sur la liste noire des 27, il serait alors interdit d'entrer dans l'UE et tous ses avoirs seraient gelés.
On prend maintenant la direction de l'Afrique, plus précisément de la Guinée, où l'ancien président Alpha Condé ainsi qu'une vingtaine d'autres ex-dignitaires du régime sont visés par des poursuites judiciaires. Ils sont accusés d'assassinat, d'actes de torture et d'enlèvement, des faits qui se seraient déroulés lorsque Alpha Condé avait tenté de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat présidentiel. Explication Sébastien Nemetz pour RFI.
la répression des manifestations qui avaient entouré ce référendum permettant de modifier la constitution pour qu'Alpha Condé reste au pouvoir. La crise avait entraîné des dizaines de morts. Le collectif FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, avait mené pendant des mois ce mouvement de colère. C'est lui qui a porté plainte contre Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables civils et militaires de son régime. Parmi eux, on trouve l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, l'ex-ministre de la Défense, Mohamed Diané, le général Souman Camara, qui était directeur général de la police à l'époque, etc. Dans ce groupe, certains sont déjà visés par des poursuites judiciaires, mais pour des faits présumés de détournement de fonds. Là, cette fois, on est au pénal avec des accusations de meurtre, disparition forcée, torture, agression sexuelle, enlèvement ou encore séquestration. Le procureur lance donc une enquête avec déjà des éléments de preuve, images, vidéos fournies par le FNDC. Il se base aussi sur des rapports d'ONG internationales comme Amnesty et Human Rights Watch. Le magistrat évoque par exemple les propos belliqueux d'Alpha Condé et son entourage lors de meetings politiques, appelant explicitement les populations à l'affrontement. Il cite aussi l'impunité totale dont ont bénéficié les forces de sécurité.
Quelques jours après l'Australie, c'est la Réserve fédérale américaine qui annonce relever son taux d'intérêt directeur pour combattre une inflation galopante. Une hausse d'un demi-point de pourcentage, la plus forte enregistrée depuis l'an 2000. La Fed a par ailleurs annoncé qu'elle allait commencer à réduire son gigantesque endettement, plus de 13 milliards de dollars australiens. Des décisions inédites liées donc à la hausse de l'inflation au plus haut depuis 40 ans, d'après le président de la Fed, Jerome Powell.
Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing. And we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
États-Unis, toujours, le pays est confronté à une possible déflagration, puisqu'il y a quelques jours a été divulgué une possible remise en cause par la Cour suprême d'un arrêt majeur, la décision de justice Roe contre Wade, une décision datant de 1973 et qui a permis la légalisation de l'avortement aux États-Unis. Le président Joe Biden a réagi à ces révélations. Il estime que cette décision, si elle devait effectivement être remise en cause, pourrait entraîner derrière la détérioration d'autres droits et de protections garanties par la Constitution.
What happens if you have a state change the law saying that children who are LGBTQ can't be in classrooms with other children? Is that legit under the way that the decision is written? What are the next things that are going to be attacked?
En France, Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari. Après le ralliement des écologistes et des communistes il y a quelques jours, c'est le Parti socialiste qui a annoncé mercredi soir s'être mis d'accord avec les Insoumis. D'accord pour afficher un front uni de gauche dans le cadre des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. L'accord conclu entre les Insoumis et les socialistes porte à la fois sur le partage des circonscriptions, mais aussi sur le programme. On fait le point avec Aurélien Devernois pour RFI.
Trouver le bon ton, la formulation parfaite pour ne froisser personne, ni chez les insoumis, ni chez les socialistes. Un travail d'orfèvre que les négociateurs des deux camps ont peaufiné jusqu'au bout. Exemple, l'Europe. L'accord programmatique trouvé ce mercredi ménage les sensibilités, on désobéit au traité côté LFI, on déroge de manière transitoire au PS. Mais l'objectif reste le même, mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne. Dans leur communiqué, les deux parties admettent leurs divergences, mais préfèrent donc voir leurs points communs. Les insoumis ont ainsi laissé une large part à des thèmes chers aux socialistes, l'école, le droit de choisir sa fin de vie, la sanctuarisation du budget de la culture. Le PS voit aussi un mot important à ses yeux apparaître sur les questions de République et de laïcité, l'universalisme. Les socialistes se convertissent quant à eux à la 6ème République, au retour à la retraite à 60 ans, au blocage des prix des produits de première nécessité. Un équilibre qui devra toutefois convaincre les cadres du PS. La direction se réunit ce mercredi soir avant la convocation du Conseil national du parti. Jeudi.
Et pour conclure ce bulletin, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. 22 degrés du soleil aujourd'hui à Perth. En revanche, il pleut à Adélaïde où le thermomètre affiche péniblement 15 degrés. Même météo maussade et même température prévue aujourd'hui à Melbourne. À Sydney, en revanche, il fait 23 degrés. Le temps est un peu nuageux également. On s'attend par ailleurs à des averses. 27 degrés à Brisbane où le temps est pluvieux. Et le thermomètre monte jusqu'à 35 degrés aujourd'hui à Darwin où il fait très beau.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Ligue des Champions et le Real de Madrid qui a battu Manchester City. Victoire des Madrilènes, 3 buts à 1. Après prolongation, Annie Gasnier pour Radio Foot International avec Cédric de Oliveira.
Les Madrilènes se qualifiaient au terme d'un match fou en terrassant donc Manchester City au score et au mental incroyable. Une habitude hein, pour ce Real Madrid. On a l'impression que cette équipe est toujours transcendée sur son stade. Écoutons le résumé de ce qui s'est passé ce soir et en très peu de temps, on reviendra sur le timing des buts.
Bernardo Silva qui accélère, Bernardo Silva qui va donner justement Riyad Mahrez la frappe. Allez, le voilà, l'ouverture du score de Riyad Mahrez. Il suffisait de le dire, le ballon de Bernardo Silva. Et ça fait donc 1-0 pour Manchester City. L'égalisation pour le Real Madrid. Mais voilà, mais ce Real, c'est pas possible, c'est toujours le Real qui est dans le coup. Et Rodrigo, encore lui qui vient égaliser. Il va rester quelques minutes, messieurs. Et on ne sait jamais avec ces Madrilènes. Et le Real qui a compris là que eh bien il y avait quelque chose à jouer toujours. Camara, le centre, la tête, oh le but, le but du Real, le but du Real, extraordinaire, mais voilà, mais c'est pas possible, mais comment c'est possible que ce Real soit encore dans le coup, le centre et la tête derrière, tout le monde du côté du Real, tous les remplaçants sont sur la pelouse. Benzema face à Ederson, et c'est dedans pour le Real Madrid, et ça fait 3 buts à 1, évidemment Karim Benzema, toujours lui, toujours Monsieur Benzema pour aller marquer ce troisième but. Pour l'instant, il va aller fêter ce but avec les supporters du Real Madrid, le Nouébé qui vient de marquer ce but sur pénalty, il a marqué, il a ouvert son pied. C'est terminé ici.
Et puis je vous propose maintenant un extrait du match quand Benzema a marqué le penalty à la 95e minute pour le Real de Madrid. Cédric de Oliveira et Pierre Chaperon qui commentaient ce match pour RFI.
Karim Benzema face à Ederson. Benzema, meilleur buteur de la Ligue des Champions. 14 buts, on le rappelle. Benzema face à Ederson. Et c'est dedans! C'est dedans pour le Real Madrid. Et ça fait 3 buts à 1. Évidemment, Karim Benzema, toujours lui. Toujours Monsieur Benzema pour aller marquer ce troisième but. Pour l'instant, il va aller fêter ce but avec les supporters du Real Madrid. Le Nouébé qui vient de marquer ce but sur pénalty. Il a marqué, il a ouvert son pied. Il a pris à contre-pied Ederson. Messieurs, le Real est devant après ce pénalty. Et eh bien, c'est lui pour l'instant qui s'offre cette finale de Ligue des Champions.
Et c'est le scénario parfait. Hein. C'est le scénario parfait. Soirée. Il marque d'entrée de Ligue des Champions de prolongation. Donc derrière, tu forces City à sortir. Tu vas jouer en contre avec Vinicius qui est un peu cramé mais qui a du jus. Rodrigo, Valverde et Asensio qui sont rentrés. Camavinga qui te fait des chevauchées de 50 mètres, c'est le scénario parfait.
Soirée exceptionnelle et soirée presque parfaite pour les supporters du Real. Vous réagissez bien sûr, y compris pour encourager City, hein, si vous êtes supporter des Citizens. Soirée exceptionnelle sur RFI, les prolongations et pour l'instant le Real qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. 3-1 Martin Gaz.
Ça fait 15 pour Benzema dans cette Ligue des Champions, ça fait 86 au total. Il rejoint Robert Lewandowski sur la troisième marche du podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition et ça fait 3 buts en 4 minutes si on regarde 90, 92e et puis si on reprend les compteurs 94e même si c'est tout à fait dans la même période.
Et peut-être un vrai duel pour le Ballon d'Or en finale de Ligue des Champions contre Sadio Mané.
Mardi, Liverpool a frôlé la catastrophe mais a gagné au final contre Villarreal comme nous l'explique Martin Guez pour RFI.
Dixième finale de Ligue des Champions dans son histoire pour ce club qui en a déjà gagné 6. Ils viseront donc la passe de 7, ce sera le 28 mai prochain au Stade de France. RFI évidemment Israël, comme vous le disiez. Louis, ça a été compliqué, beaucoup plus compliqué que prévu face à une belle équipe de Villarreal. Au match aller la semaine dernière, Liverpool l'avait emporté 2-0 en Anfield. On se disait que ça allait être plutôt tranquille pour les hommes de Jurgen Klopp. Eh bien, pas du tout. Villarreal a réussi à mettre le feu dans ce stade de la céramique. Petit stade de 22 000 places, mais chauffé à blanc. Un chaudron dans lequel avaient pris place les supporters justement de cette équipe qu'on appelle le sous-marin jaune. Ils étaient tous vêtus de jaune avec des petites pancartes bleues pour supporter leur équipe. Et le premier à sortir du nid, eh bien, ce fut Boulaïdia, le Lyon sénégalais, dès la troisième minute. Premier but pour lui, l'ancien de Jura Sud, l'ancien de Reims en France. Un joueur au parcours un peu atypique qui ouvre le score contre cette équipe de Liverpool. Son tout premier but en Ligue des Champions pour le sénégalais. On se dit alors que Liverpool va sûrement réagir, va réussir à redresser le tir. Eh bien, pas du tout. Villarreal met une pression complètement folle. Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG ou d'Arsenal, a réussi à distiller ce petit grain de folie supplémentaire à son équipe. Il rajoute un deuxième but juste avant la pause, une tête irréelle de Francisco Klein, pardon, l'ancien joueur d'Arsenal, le français en tout cas, qui saute plus haut que tout le monde, plus haut que Trent Alexander-Arnold, pour reprendre de la tête un magnifique centre d'Etienne Capoue. Etienne Capoue qui sera un vrai symbole dans ce match fabuleux. Le milieu français, lui l'ancien de Tottenham, de Toulouse ou de Watford, qui délivre deux passes décisives au cours de la première période. Et en deuxième mi-temps, ça sera beaucoup plus compliqué. Il va prendre deux cartons jaunes. Il va finalement être expulsé en fin de rencontre. Dans le même temps, Liverpool, au contraire, va redresser la tête, sûrement remobilisé par un discours brutal ou un petit peu corsé, en tout cas de Jurgen Klopp à la pause. Il lance Luis Diaz, le joueur colombien, et ça va tout changer pour Liverpool. Un but de Fabinho, l'ancien de Monaco, qui frappe entre les jambes de Rulli, qui remet Liverpool potentiellement en finale. Luis Diaz qui va de son petit but, lui aussi une tête entre les jambes du malheureux Rulli, le gardien argentin, qui passe une soirée très compliquée en roue libre. Rulli face à Sadio Mané, le sénégalais 74e. Mané qui va de son petit but, qui dribble le gardien, qui marque dans le but vide. Ça fait donc 3-2 pour Liverpool, qui fonce en finale. On l'a dit encore une fois, la 10e de l'histoire du club, eux qui ont remporté la dernière en 2019, qui avait perdu en 2018 contre le Real.
La finale donc Madrid contre Liverpool, ce sera le 28 mai prochain au Stade de France. Et on notera au passage la victoire de Rafael Nadal au tournoi ATP 1000 de Madrid pour son comeback après 6 semaines. Il a battu Kecmanovic, le Serbe, 6-1, 7-6 sur terre battue. Et pour la petite histoire, Nadal a raté le match entre le Real de Madrid et Manchester City. Les Australiens ont remporté les épreuves masculines et féminines du Margaret River Pro en Australie occidentale. On parle de surf. Jack Robinson a battu l'Américain John Florence pour remporter l'épreuve masculine. Isabella Nichols, originaire du Queensland, a créé la surprise pour remporter l'épreuve féminine. Au final, elle a battu l'Américaine Gabriella Bryan. C'est son tout premier titre sur le circuit du surf. Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.
Moustache en chevron, en croc, en guidon, à la mexicaine, en morse, en fer à cheval, à l'impériale, anglaise, naturelle, postiche, en trait de crayon, en brosse à dents.
Moustache Gracias, c'est le nom du morceau qu'on vient d'écouter. Il est interprété par le groupe Deluxe, en collaboration sur ce titre avec un autre groupe bien connu, La Rue qui est à nous. 13h27, vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Et on va vous dire encore un mot de sport. En l'occurrence, on va vous parler un petit peu de cyclisme et du Giro italien qui démarre demain. Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse vont nous décrire les grands enjeux de cette course que vous pourrez suivre en direct sur SBS.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir dans les studios mon collègue Christophe Mallet qui va nous parler du cyclisme
Et d'abord, on va parler du Tour d'Italie.
Ouais, bonjour Jean-Noël, et c'est un grand moment pour le vélo en Australie, parce que le Giro est encore une nouvelle fois pour la troisième année consécutive à l'antenne d'SBS, et je ne sais pas si tout le monde aime le cyclisme, mais moi j'adore le Giro.
Le Giro donc débute ce vendredi 6 mai et va durer jusqu'au 29 mai.
Ouais, tout à fait. Alors il y a 21 jours de course, il y a des jours de repos aussi cette année. On aura 3 jours de repos. Et il y a d'ailleurs 3 jours de repos pour la petite anecdote dans les 3 grands tours. Donc il y aura 3 jours de repos également pour le Tour de France et 3 jours de repos pour le Tour d'Espagne. Et en fait, il y a 3 jours de repos parce que le Tour d'Italie ne part pas d'Italie. Il partira de Hongrie. On part de Budapest cette fois-ci. C'est un beau petit pied de nez d'ailleurs au Covid parce que c'était prévu il y a quelques temps et puis ça a été annulé justement à cause du Covid. Donc là, beau pied de nez des Italiens. D'ailleurs, les Français font la même chose avec le Tour de France qui partira du Danemark. Mais voilà, on part de Hongrie, ce vendredi.
Et ensuite en Italie. Et donc, la grosse nouvelle en début de semaine, c'était que Mark Cavendish est de retour, je crois, 9 ans après. Ouais. Et il a quelque chose comme 36 ans.
C'est ça ? Ouais, tout à fait. Et surtout, c'était la grosse surprise d'ailleurs du Tour de France l'année dernière. Il a, si vous vous en souvenez, emmagasiné 33 victoires, sa 33e victoire sur une étape du Tour de France. Il a égalé Eddy Merckx, le grand Eddy Merckx. Et donc là, il revient sur le Tour d'Italie. Alors, est-ce que ça va dire qu'il ne sera pas présent au Tour de France ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est en touche à tout ce qui peut être dit par rapport à Mark Cavendish, c'est que c'est un coureur qui est vraiment polarisant. On l'aime ou on ne l'aime pas, on l'aime ou on le déteste même, j'allais dire. Mais Mark Cavendish, c'est un coureur qui est impressionnant dans le sprint. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va mettre le feu dans les sprints. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va pouvoir se passer. Parce que c'est un sprinteur qui a la classe, il a été champion du monde, il a tout gagné. Mais là, il revient pour peut-être un dernier tour d'honneur sur les terres italiennes. Et ça va être voilà, c'est vraiment le sprinteur à regarder sur ses premiers jours du Tour d'Italie.
Et le favori de cette année, c'est toujours Ricardo Carapaz.
Oui, je pense que Carapaz, ça va être le favori. Il est vraiment épaulé par une belle équipe d'Ineos. Il y a d'ailleurs l'Australien Richie Porte dans cette équipe. Ça sera très certainement le dernier grand tour de Richie Porte. On ne sait pas bien s'il fera la Vuelta. On est presque sûr qu'il ne fera pas le Tour de France. Donc Richie Porte, ça va être l'équipier de luxe de Carapaz. Et surtout, Ineos qui gagne un peu tout en ce moment. Ils ont énormément gagné. Ils ont gagné, je crois de mémoire, 12 courses avec 12 coureurs différents depuis le début de l'année, ce qui est incroyable. Donc voilà, ouais, c'est vraiment là où il va falloir regarder. Après, il y a quelques Français qui peuvent tirer leur épingle du jeu, mais c'est vraiment au niveau d'Ineos, je pense, qu'il va falloir regarder pour la victoire finale.
Alors, chez les Français, il y a Thibaut Pinot, il y a Romain Bardet qui vont être présents.
Ouais, tout à fait. Et puis, il y a Arnaud Démare aussi, leader du Groupama FDJ, qui pourra venir chatouiller, d'ailleurs, Mark Cavendish dans les sprints. Je pense pas qu'on ait qui que ce soit pour la victoire finale, même si Romain Bardet peut être un coureur impressionnant. On sait qu'il a gagné le Tour des Alpes là, récemment, il y a quelques semaines. Romain Bardet, et puis c'est un coureur au grand cœur. On l'a vu quand il y a eu la chute d'Alaphilippe dans une des courses récemment. Alaphilippe qui est d'ailleurs toujours blessé et qui est sûrement très incertain pour le Tour de France. Romain Bardet, ça a été le coureur qui est resté à côté de lui pendant de longues minutes quand Alaphilippe était dans une souffrance incroyable. Et donc voilà, et Romain Bardet, il va essayer de montrer des choses. Maintenant, à savoir s'il va pouvoir faire vraiment des grandes choses sur ce tour, ça risque d'être un peu plus court pour ça. Mais voilà, Romain Bardet. Mais je pense qu'en termes de victoire d'étape, les chances sont plutôt du côté d'Arnaud Démare et du Groupama FDJ, qui pourra sûrement démontrer toute sa puissance et la puissance du train, ce qu'on appelle le train des sprinteurs Groupama FDJ, qui pourront sûrement rivaliser avec les deux Koenig, donc de Mark Cavendish, on l'espère en tout cas.
Et on va pouvoir suivre le Giro à la télé SBS, mais également en podcast.
Ouais, tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir tous les soirs à 18h sur les réseaux sociaux, sur la page d'SBS Sport. Donc, moi-même et mon collègue Dave McKenzie, eh bien, on sera là en direct tous les soirs pour décrypter l'étape et puis pour décrypter l'étape à venir, surtout. On fera ça tous les soirs, donc à 18h. Et puis voilà, le Giro tous les soirs à la télé. Il faut en profiter parce que c'est gratuit, c'est live. Voilà, il n'y a pas tous les pays qui ont le Giro. En France, le Giro, il faut le voir sur une télé payante. C'est pas du tout à la télé française, donc ici on a la chance quand même d'avoir ça sur un service public. Bon, je prêche pour ma propre paroisse, hein, mais on a la chance d'avoir les 3 grands tours, et ça c'est pas vrai en France. Par exemple, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, ils sont pas disponibles à la télévision gratuitement en France, donc ici on a un vrai bonus.
Et de voir de beaux paysages.
C'est l'Italie quand même. Hein.
C'est l'Italie. Et il y a aussi un site spécialement créé, SBS Sport.
Ouais, tout à fait. On a aggloméré donc le football, le vélo et tous les autres sports qui avaient leur site indépendant, le Cycling Central, le The World Game. Bah, tout ça maintenant, c'est sous l'ombre, l'ombrelle ou le parapluie donc d'SBS Sport. C'est sbs.com.u/sport. Et donc vous retrouvez toute la façon dont SBS fait le sport. Ce sera sur un seul site. Ouais.
Merci Christophe.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Alexia Grody, c'est le nom de la chanteuse qu'on vient d'entendre interpréter ce titre issu de son premier album, un titre qui s'appelle « Sinon, rien ». Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français, il est 13h et presque 37 minutes. On passe maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire, le journal de l'économie en Australie. Aujourd'hui, Nicolas Perpich va revenir sur cette décision de la Banque centrale australienne de relever son taux d'intérêt directeur. Il va nous parler de l'importance de cette décision et surtout des conséquences qu'elle risque d'avoir sur notre portefeuille.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
La Banque centrale a réagi sur les taux d'intérêt qui ont augmenté mardi. Quelle est la signification de cette décision pour l'économie?
Oui, alors en fait, c'est très très important. Ça marque un grand tournant économique pour l'Australie. Et tout ça, c'est vraiment, ça tourne autour de l'inflation qui a atteint 5,1%, qui est beaucoup plus haut qu'avant. Et aussi, ça tourne autour d'un taux de chômage de seulement 4%. Donc le gouverneur de la Banque centrale, qui s'appelle Philip Lowe, il a dit que c'était le temps maintenant, c'était le moment de normaliser le taux d'intérêt, après qu'on a vu des niveaux très très bas depuis la pandémie. Et en fait, c'est la première fois depuis 11 ans que la Banque centrale a levé le taux d'intérêt. Donc vraiment très très longtemps, et ils ont levé donc le taux d'intérêt par 0,25% jusqu'à un nouveau niveau de 0,35%. Et donc Philip Lowe dit que c'est important, c'est essentiel pour essayer de réduire l'inflation, que ça ne continue pas à monter trop haut. Et il a dit que c'est sûr qu'il faudra lever le taux d'intérêt encore plus, et peut-être jusqu'à 2,5%. Donc on pense que c'est assez sûr que ça va encore lever en juin et les mois d'après ça. Mais on peut déjà savoir que pour quelqu'un qui a une hypothèque de 500 000 dollars, ça va leur coûter 65 dollars plus chaque mois pour payer ses dettes. Donc, si le taux d'intérêt monte à 2,5%, ça va mettre énormément de pression financière sur les gens. Et il y aura des gens qui, c'est sûr, ils vont pas pouvoir payer leurs dettes à la banque, leur hypothèque. Donc, ça va devenir assez difficile. Donc, parce qu'en même temps, il y a l'inflation qui continue à monter, donc les prix des choses vont devenir plus chères. En même temps, les salaires ne montent pas aussi rapidement non plus. Donc, en fait, l'argent qu'on a, on peut acheter moins avec notre argent, en fait. Alors, la Banque centrale pense que les prix, que l'inflation va augmenter par autant que 6% cette année, ce qui est quand même important. Ce qui se passe là, donc, c'est que la banque essaie de contrôler cette inflation en rendant l'argent plus difficile à louer, plus cher à emprunter. Et en même temps, la banque veut que les gens dépensent moins. Tout ça pour vraiment ralentir l'économie, pour calmer cette hausse des prix qu'on est en train de voir. Peut-être que les seules personnes qui sont vraiment contents en ce moment, c'est les gens, peut-être à la retraite ou des gens qui ont économisé beaucoup d'argent et qui depuis longtemps ne recevaient presque rien de la banque parce que les taux d'intérêt étaient tellement bas. Alors maintenant, ils vont commencer avoir un peu plus d'argent qui va venir avec les taux d'intérêt un peu plus haut. Alors oui, vraiment un moment assez historique pour l'Australie là.
À la veille des élections. Cette nouvelle étonnante, Nicolas, la révélation qu'une des compagnies australiennes les plus connues, Qantas, qui a presque fait faillite au début de la pandémie de Covid-19.
Voilà, incroyable. Ces compagnies tellement bien connues, Qantas, une des plus vieilles compagnies australiennes qui date de 1920 en fait. Et en fait, Qantas, ça veut dire Queensland and Northern Territory Air Service, Qantas. Et alors, voilà ce qui se passe, c'est que quand la pandémie a commencé, bien sûr, les frontières ont fermé et presque d'un jour à l'autre, les gens ont arrêté de prendre des vols. Donc, l'impact sur l'industrie a été catastrophique. Et le PDG de Qantas, Alan Joyce, il a dit cette semaine que la compagnie a été à 11 semaines prête de faire faillite au début de 2020. Donc, vraiment très, très près. Et selon M. Joyce, Qantas avait 6,4 milliards de dollars de dettes pendant cette époque, quand les frontières étaient fermées. Donc, énormément de dettes. M. Joyce a dit que la compagnie, qui est en fait la troisième plus vieille ligne aérienne du monde, a été obligée de changer et de se réinventer pour survivre. Donc, complètement se restructurer. Et Qantas a été obligé de vendre des biens, vendre des avions. Mais maintenant que les frontières se sont rouvertes et les Australiens commencent à voyager de nouveau, le revenu commence à couler de nouveau pour Qantas. Et la dette est retombée à 4,5 milliards de dollars le mois dernier, ce qui est en dessous de ce que c'était avant la pandémie. Et en fait, Qantas aussi vient d'annoncer cette semaine des vols directs de Sydney à Londres et de Sydney à New York. Donc, les plus longs vols directs au monde. Et en même temps, ils ont dit qu'ils vont acheter peut-être autant que 146 nouveaux avions pour 34 milliards de dollars. Donc, on dirait que ça va quand même. Pourquoi on reste ils vont pas faire faillite et en fait, ils sont en pleine expansion là. Donc, M. Joyce dit que structurellement, c'est maintenant une compagnie différente et que Qantas a maintenant une plus grosse partie du marché domestique ou intérieur en Australie et encore plus de demandes pour les vols à l'international. Donc, on peut vraiment dire que Qantas prend vol de nouveau, ça c'est sûr.
On signale aussi que Airbus est ravi d'avoir signé un contrat avec Qantas en début de semaine pour une commande de plusieurs avions et les Airbus, les appareils qui vont aussi assurer les vols directs Sydney-Londres, Sydney-New York.
Oui, exactement. Là, les nouveaux avions d'Airbus, tout nouveaux, et Qantas a promis un niveau de confort qu'on n'a jamais vu avant ça sur les avions, en particulier en business et en première classe, bien sûr, avec un grand luxe sur ces avions de Airbus.
Merci Nicolas pour avoir décrypté l'actualité de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup Jean-Noël, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et la belle voix sensuelle qu'on vient d'entendre, c'est celle d'une jeune artiste qui s'appelle Amoué. C'est la nouvelle pépite de la chanson française et le titre qu'on vient d'écouter s'appelle pour sa part Billy. On arrive maintenant à la toute dernière partie de notre émission. Vous venez peut-être de finir votre déjeuner. Est-ce qu'il vous reste encore de la place pour un dessert? En tout cas, on va, je pense, vous remettre en appétit. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé Audrey Bourget avec sa série À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, elle nous parle de cannelés, pas n'importe lesquels, ceux que conçoit Vincent Huzeau. Il a un atelier à Melbourne où il régale la population avec donc cette spécialité originaire de Bordeaux.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on vous parle de cannelé dont la recette vient directement d'un des membres de la confrérie du cannelé de Bordeaux, mais qui sont faits en Australie et livrés presque partout au pays. Rencontre avec Vincent Huzeau de Cannelé Alain.
Un bon cannelé, c'est un cannelé croustillant, un peu avec une bonne croûte épaisse à l'extérieur et puis à l'intérieur. Moi, j'aime bien les manger chauds, les cannelés ou tièdes. Et donc, à l'intérieur, une texture aérée, pleine d'arômes de vanille et de rhum. Et je trouve que ça rend bien quand c'est un peu tiède, en fait. Mais on peut aussi les manger à température ambiante. En fait, la texture à l'extérieur, elle change en fonction de la forme. Au-dessus, elle est un peu plus croustillante parce qu'elle a la forme un peu des cannelures. Mais alors, quand on mange vers le bas, c'est plus moelleux et c'est toujours du caramel, mais c'est un peu plus brûlé généralement. Enfin, il y a des degrés de caramélisation différents de texture.
On vient d'entendre Vincent Huzeau qui a lancé son entreprise Cannelé Alain en 2020 à Melbourne. Mais le Français est passionné de cannelé depuis qu'il est tout petit. Sa famille se souvient encore de la première fois où il a goûté à la pâtisserie originaire de Bordeaux.
Ah, c'était quand j'étais un jeune garçon. C'était au mariage de mon cousin, donc le fils d'Alain, qui Alain, c'est un pâtissier de profession, donc il avait créé plein de gâteaux. Des pièces montées et parmi les gâteaux il y avait des cannelés et apparemment moi je m'en souviens plus très bien parce que j'étais très jeune mais c'est la première fois que j'avais goûté les cannelés et j'ai tellement adoré que j'ai passé toute ma journée à manger les cannelés en fait. J'étais omnibulé par les cannelés, il y avait rien d'autre qui existait à part les cannelés ce jour-là.
Lorsque la famille de Vincent Huzeau est déménagée près de Lyon, l'oncle Alain qui était membre de la confrérie du cannelé de Bordeaux leur envoyait des cannelés par la poste. Mais la famille les mangeait tellement rapidement que Vincent a demandé à son oncle la recette pour pouvoir en faire lui-même.
Du coup, j'ai demandé à mon oncle s'il pouvait m'apprendre la recette. Donc, il m'a envoyé par la poste une recette. C'était sept ingrédients, trois lignes. C'était très simple. Et après, il m'a donné quelques moules aussi. Et au début, c'était un peu compliqué parce que ça collait aux moules. J'avais pas bien compris comment ça marchait. Donc ça avait l'air simple, mais c'était pas si simple au final. Et puis après quelques essais, j'ai fini par comprendre. Et puis là, ouais, c'était parti. Je pouvais faire mes propres cannelés. J'étais aux anges.
Vincent Huzeau a longtemps réservé ses cannelés pour sa famille et ses amis. Mais après plusieurs années en Australie, il a décidé de lancer sa propre entreprise parallèlement à sa carrière d'architecte. Cannelé Alain, nommé en hommage à son oncle, a vu le jour en pleine pandémie à Melbourne.
J'essayais de donner un peu de plaisir aux gens pendant le lockdown. Donc j'avais plein de commandes pendant les lockdowns à chaque fois, parce qu'on a eu quoi, 6 ou 7 des lockdowns à Melbourne. Donc à chaque fois, je faisais des campagnes. C'est bon, on va y arriver, Melbourne, encore un lockdown, mais on a les cannelés pour survivre. Et du coup, ça m'a aidé à passer à travers les lockdowns aussi, les confinements. Et je pense que ça a aussi aidé d'autres gens, des clients, à adoucir leur confinement, je dirais.
Leur cannelé le plus populaire est le classique à la vanille et au rhum.
La recette originale, donc c'est la recette de mon oncle, je ne l'ai pas touchée. Mon oncle faisait partie de la confrérie du cannelé à Bordeaux, donc c'est un club assez élitiste de passionnés, de pâtissiers passionnés du cannelé. Donc ils se prennent assez au sérieux et donc du coup cette recette elle a été homologuée enfin par la confrérie. Donc c'est un peu mon saut de l'originalité. C'est un peu euh, c'est ma certification, quoi. C'est dire cette recette que je partage en Australie, elle vient vraiment de Bordeaux, du savoir-faire pâtissier local, quoi. Donc ouais, je l'ai pas touché. Pour les ingrédients, j'ai essayé de me rapprocher au maximum de ce que l'on trouve en France. Donc j'ai la vanille de Madagascar, j'ai du rhum des Antilles françaises. Bon après, ben le sucre, la farine, le lait, bien sûr c'est local, mais bon voilà, j'ai essayé de me rapprocher au maximum de ce qu'on peut trouver en France.
Vincent Uzo offre aussi des cannelés vegan et sans gluten et différents arômes comme l'orange et le pandan.
Et on a décliné en fait des arômes en fonction des retours des clients en fait. Parce qu'on est une grosse clientèle asiatique et un des clients me disait « Est-ce que tu pourrais développer une recette au pandan ?» Je ne savais même pas ce que c'était le pandan. C'est une sorte de feuille aromatique asiatique qui apparemment a un goût un peu vanillé et un peu herbal, je dirais, je ne sais pas trop. Et du coup, j'ai fait quelques essais puis on a développé en fait avec ce client qui est devenu un ami une recette au pandan. Donc j'ai fait une recette pandan Malibu parce que justement le pandan ça a aussi une saveur un peu coco, noix de coco. Donc je l'ai associé avec le Malibu. En fait le plan c'est toujours d'associer une liqueur à une saveur quoi. Donc c'est vanilla et rhum, c'est pandan et Malibu et ensuite j'aime beaucoup l'orange donc j'ai développé une recette à l'orange. Donc, bien sûr, là, c'est le Cointreau qui va avec l'orange.
Depuis qu'il a lancé Cannelé Alain, Vincent Uzo remarque l'intérêt grandissant des Australiens pour le cannelé.
J'ai une conviction, c'est que le cannelé, ça deviendra le prochain macaron. Il y avait une sorte de ferveur du macaron, une mode du macaron décliné à toutes les couleurs et les saveurs. Et je pense que le cannelé c'est la prochaine vague et parce qu'il y a plein de potentiel en fait, on peut en faire plein de couleurs, plein de saveurs, on peut les faire sucrés, on peut les faire salés. Et oui, je pense que les Australiens connaissent pas encore très bien mais ils ont une sorte de curiosité. Il y a beaucoup d'Australiens qui adorent la France et en fait tous les clients qu'on a, on leur demande est-ce qu'ils ont aimé les cannelés, ils nous racontent leurs histoires, ils nous disent comment ils sont tombés amoureux des cannelés. Donc la plupart ça leur rappelle la France, qu'ils sont aussi bons qu'en France. Ça nous fait chaud au cœur à chaque fois qu'on a des compliments comme ça. Et en fait, on voit bien que l'Australie et la France sont connectés culturellement, que les Australiens aiment la gastronomie française. Donc oui, je pense que ils retrouvent un petit bout de France, en fait, à chaque fois qu'ils mangent un cannelé.
Les cannelés de Cannelé Alain peuvent être récupérés en personne ou livrés par messager à Melbourne. Ils peuvent aussi être livrés par la poste presque partout au pays. Vincent Uzo prévoit même ouvrir une nouvelle branche à Perth pour pouvoir mieux servir l'ouest du pays. Rendez-vous au cannelealain.com pour commander.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en douceur avec ce morceau du duo Jojoa et Lieutenant Nicholson sur un morceau qui s'intitule « Pas si vite ». Justement, n'éteignez pas votre poste trop vite. Il me reste encore à vous dire que notre prochaine émission en direct, ce sera samedi à 13h précise. Et puis, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préféré. Je voulais également remercier Dan qui m'a accompagné à la technique pour assurer la réalisation de cette émission et bien sûr vous remercier vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.
Pas si vite.
Excellent, quand c'est long.
Excellent
conseil.
partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.